Se passerait-il dans le podcast la même chose que dans le vin ? Après des débuts si enthousiasmants, voyant toutes ces initiatives individuelles, ces prises de parole originales et bien souvent plutôt artisanales, le podcast est entré, semble-t-il, dans une ère de production de masse avec force financement, réseaux innovants, parfois recopiants et vedettes réseaux socialisés. Certes, beaucoup de programmes passionnants en résultent, d'autant mieux mis en valeur qu'ils sont produits et diffusés par des professionnels. Le son, bien sûr, est excellent, mais aussi l'habillage, la communication et le nerf de la guerre, la visibilité sur les grands canaux de diffusion est au rendez-vous. Autant le dire franchement, on se sent parfois tout petit face à ce déferlement de moyens. Mais après le premier effet d'intimidation, c'est la combativité qui prend le dessus, parce que ce support offre toujours la possibilité de diffuser et de toucher son public hors des grands réseaux, même si ce n'est pas toujours facile d'être visible. Parce que la solidarité entre les indépendants est une vraie réalité et fait chaud au cœur. Parce qu'enfin, nous aimons le son et le vin, et que c'est bien là le plus important. Comme ces vigneronnes et vignerons innombrables qui sont portés par la passion et résistent aux grands domaines dont l'approche est souvent plus industrielle qu'artisanale. Leur secret ? Proposer des vins uniques, authentiques, personnels, face auxquels les œnophiles que nous sommes vont être touchés et parfois même émus par la combinaison de talents et de terroirs qu'ils proposent. Alors c'est d'eux que nous nous inspirons modestement pour nourrir une ambition folle dans le podcast, celle de vous proposer ce qu'un illustre aîné avait appelé des émissions modestes et géniales. Ce 45e épisode s'intitule « La Bourgogne rebelle » de Valette et Giboulot. Bienvenue dans la Terre à Boire. Et nous voici donc en studio avec Patrice Defay, bonsoir.
Bonsoir.
Et avec Florence Aragoni, bonsoir Florence.
Bonsoir.
Les amis, je suis ravi et en même temps un petit peu stressé, comment dire, parce qu'on va aborder enfin une région qu'on a soigneusement mise de côté jusqu'à présent, alors que c'est un peu le mythe absolu des régions viticoles françaises, la Bourgogne. Voilà, alors... La Bourgogne, ça évoque énormément de choses, on va en parler. Et puis c'était surtout un gros cas d'école pour nous de se dire comment on parle de la Bourgogne, est-ce qu'on explique la Bourgogne dans le détail, ce qui est quand même une entreprise assez ambitieuse. Et puis il y a déjà beaucoup de littérature, il y a une complexité qui est folle, on pourrait passer des heures à expliquer la diversité des terroirs, des climats, les méthodes. Et la façon qu'on a choisie, si vous en êtes d'accord, mais on l'a choisi ensemble, c'est d'en montrer les facettes qui nous intéressent. Souvent, ce sera à travers des vins, comme d'habitude dans la Terre à Boire, à travers des vignerons, sans vouloir être absolument académique, à décortiquer toutes les régions et les sous-régions et les climats, mais plutôt de montrer les différents visages de la Bourgogne à travers des vins qui nous émeuvent, qui nous plaisent. Qu'est-ce que, d'abord, Florence, qu'est-ce qu'elle évoque pour toi, la Bourgogne ?
Je crois qu'on peut dire que mon émotion la plus grande quand même sur un vin, quelque chose qui m'a vraiment, que j'ai trouvé assez extraordinaire, c'était le Grand Échezeau du domaine de la Romanée-Conti sur un millésime 2009. Voilà, j'ai eu la chance de goûter plein de très belles choses, mais ça, franchement, ça laisse un souvenir assez impérissable.
Là, on est en plein dans le mythe total.
Exactement.
Des vins les plus recherchés dans le monde.
Exactement.
Autant dire un mythe pratiquement inaccessible, en fait.
Un mythe inaccessible pour ma tirelire, ça c'est sûr. J'ai eu la chance d'avoir un client sympathique qui m'a dit « Mais non, prenez-en un grand verre pour goûter avec moi. » Mais voilà, c'est un mythe assez inaccessible pour la plupart des gens.
Patrice ?
Alors la Bourgogne, c'est pareil, c'est que je pense qu'il y a ça transperce et ça révèle au vin. Enfin, il y a pas mal de gens beaucoup plus célèbres que nous, comme John C. Robinson, qui était la grande critique de vin anglaise qu'on connaît, conseillère de la reine, etc., qui se destinait à être mathématicienne, parce qu'elle sortait brillamment d'Oxford, et puis elle a fait l'erreur, ou pas d'ailleurs, de goûter un Chambolmosini, Les Amoureuses de Domaine Voguet. Et ça l'a complètement transpercé, ça lui a révélé. Donc je pense que, alors moi, à mon échelle aussi, je me suis dit, tiens, le vin, c'est ça, en goûtant aussi. Alors c'était pas la Romanée Conti, je me souviens pas du domaine, parce qu'à l'époque, je savais pas que c'était important. À 15-16 ans, j'avais goûté un grand Échezeau également. Et je me disais, waouh, ça peut être ça le vin, c'est pas juste de la picrate, ça peut être beau, ça peut être poétique, ça peut être émouvant. Donc je pense que la Bourgogne, c'est côté poétique du vin, c'est le sommet du vin, en fait, c'est un espèce de d'éternité absolue, parce que voilà, c'est en tout cas le summum, entre guillemets, de ce que peut être la finesse du vin. C'est un peu si le vin était de la musique, ce serait la musique classique, et ça peut être à la fois hyper hyper équilibré, hyper sensuel et hyper marquant, et ça a généré pas mal de vocations, et en tout cas celle, par exemple, de Jancis Robinson, et pas mal de gens qui se sont dit, waouh, voilà, ça c'est ça le vin, enfin. C'est une révélation, quoi.
Souvent, les clients vous disent, quand ils parlent de la Bourgogne, je veux un grand vin de Bourgogne, un grand blanc de Bourgogne, un grand rouge de Bourgogne. Je ne sais pas pourquoi, mais grand, ça va toujours avec Bourgogne.
C'est presque un paradoxe, parce que c'est plutôt un petit territoire quand on le regarde, avec des petites exploitations en termes de taille, hein, bien sûr. Beaucoup font quelques hectares.
Et des petits rendements. Mmh.
Et c'est alors c'est intéressant ce que tu disais sur cette musique classique, un peu le Mozart. Il faut reconnaître que la Bourgogne, de tous les territoires, alors évidemment les deux grandes régions françaises, c'est le Bordelais et la Bourgogne, mais peut-être la Bourgogne, c'est celle qui reste quand même la plus prestigieuse dans le monde entier, qui est regardée dans le monde entier comme peut-être la région, c'est un peu le joyau de la viticulture française.
Oui, puis d'abord par rapport à Bordeaux, il y a des joyaux en blanc et en rouge, alors que Bordeaux a surtout des Bordeaux en rouge et un petit peu en liquoreux en termes de quantité. Et puis c'est la quintessence de deux choses, c'est-à-dire de ce qu'on peut faire avec des monocépages, parce que c'est que des monocépages, enfin, essentiellement Chardonnay et
Pinot. En blanc et Pinot noir.
Et si, je ne sais plus qui c'est qui disait que la vigne était le nerf de la terre. Donc là, c'est un nerf qui est hyper sensible à la terre, puisque chaque climat, à 3 mètres près, on peut avoir une expression complètement différente de deux cépages qui sont complètement identiques, le Pinot. Donc c'est vraiment entre guillemets, de ce point de vue-là, le summum de ce que c'est l'expression du vin, de l'expression du terroir, et de l'expression, je dirais, soliste d'un terroir en fonction de telle ou telle parcelle.
Puis les noms sont poétiques, hein, parce que je repense à Les Amoureuses, donc quand vous présentez à la Saint-Valentin, j'en parle parce que c'est bientôt la saison, je vais vous prendre un cru Les Amoureuses, et en fait, pourquoi ça s'appelle Les Amoureuses? Parce que la terre est très collante sur ce cru-là, et elle reste collée aux chaussures, donc on dit qu'elle est amoureuse. La terre est amoureuse aux chaussures, mais voilà, les noms sont très poétiques pour donner des exemples de choses.
Tu donnes l'explication, c'est un peu moins poétique.
Bah ouais, c'est moins poétique. Les gens se disent, ah, je vais prendre un cru Les Amoureuses. Et en fait, tu fais oui, Les Amoureuses, c'est parce que la terre, elle colle aux chaussures, donc on dit la terre est amoureuse.
Mais effectivement, il y a une poétique aussi du verbe, on va dire, en Bourgogne, parce que chaque climat et chaque terminologie exprime une histoire, quoi. Les murgés, ça veut dire les murs, et c'était les murets qui se réparaient les différents clos.
Et non pas ceux qui ont bu un peu trop de.
Exactement,
de
rien à voir, rien à voir. Donc chaque, enfin, Combe d'Orvault, enfin bon, tous les termes spécifiques évoquent une profondeur historique, en fait, et sont ancrés dans le terroir. Après, la Bourgogne, pour le coup, quand on a dit ça, c'est que y a une Bourgogne, inaccessible, on va dire ça comme ça, parce que. Encore une fois, l'effet terroir est important, mais là aussi, je dirais, l'effet vigneron et comment dire, côté spéculatif de tel ou tel domaine est hyper important, et on a des choses pour une même appellation de vin qui peuvent aller du simple au 100. Hein, si vous prenez, un Chambolmosini lambda ou un Chambolmosini de chez Roumier ou autre, on peut atteindre ça se compte en milliers d'euros. Donc ça, c'est complètement accessible. Il y a une deuxième Bourgogne, donc ça, c'est vraiment le cœur, on va dire, du côté de Côte de Nuit et Côte de Beaune. Et puis, on a une deuxième Bourgogne beaucoup plus périphérique, qui est assez intéressante et qui se révèle, et qui sort un peu des sentiers battus, que ce soit sur certaines appellations assez peu connues de Côte de Nuit, notamment en Fixin, par exemple, ou en côte chalonnaise, Marange ou dans le Mâconnais, tout ce qui est Pouilly, qui sont aujourd'hui les Bourgognes qualitatifs et abordables, puisque les premiers crus dont on a parlé, même sur des appellations ou des noms de domaines assez peu réputés, c'est difficile de trouver quelque chose à moins de 70 ou 80 euros. Alors que dans ces appellations-là et ces territoires-là, on peut trouver des choses beaucoup plus abordables.
Alors justement, ouais. C'est la Bourgogne par laquelle on va commencer pour cette émission. J'ai l'impression qu'on pourrait parler, tu parlais de musique classique. En fait, les deux vins que vous avez sélectionnés pour cette émission, ce serait plutôt la Bourgogne rock'n'roll un petit peu. Des gens qui font pas tout à fait comme les autres. Voilà, on a mis de côté, on a parlé de la Bourgogne mythique. Elle est quand même largement inaccessible aussi, on peut le dire. Là, on est dans quelque chose qui est accessible, trouvable, dans des budgets corrects et en même temps avec une vraie originalité, des vrais auteurs et un petit côté frondeur, on va le dire aussi.
Oui. Bah après, le défaut de ce classicisme, c'est qu'elle est un peu engoncée aussi dans des pratiques d'AOC qui deviennent, on l'a déjà abordé dans pas mal de régions, un petit peu rigides. Et du coup, ce classicisme qui est inaccessible, on peut soit
l'embrasser ou le bousculer.
Exactement, plutôt le bousculer. Et là, c'est le cas de ce domaine-là, qui est un domaine qui est un peu connu quand même, dans la bistronomie parisienne, en tout cas, et je pense dans la bistronomie française, c'est le domaine Valette, qui est à Chintré, donc on est dans le Mâconnais, et qui a eu l'outrecuidance, on va dire ça comme ça, et surtout la persévérance, parce que maintenant, tous ces vins sont reconnus, je dirais, en tout cas, dans le domaine des vins d'auteur et des vins en biodynamie, en tout cas, et des vins nature. Donc c'est que du blanc, hein, c'est 15 hectares principalement, enfin exclusivement en chardonnay. Ils sont basés à Chintré. Et on a des Mâcons, on a du Pouilly Vinzel. On a aussi un vin que moi j'avais découvert complètement par hasard il y a 4 ans dans un restaurant qui a fermé malheureusement, qui s'appelle La Bigarade. Mais dont le chef, je crois, a réouvert.
Bien sûr, c'est l'ancien restaurant de Christophe Pellet qui est aujourd'hui le chef double étoilé du Clarence.
Et voilà, on avait eu la chance de goûter le clos de Monsieur Noli, et j'avais jamais goûté un chardonnay qui était resté 72 mois en barrique, et donc avec un côté un petit peu fermentaire, oxydatif, et qui sont pas du tout dans les canons très noisettes, boisées, grillées, beurrées,
rien
qu'on trouve habituellement dans la Bourgogne.
Ce qu'on a là dans les verres, c'est trouble, c'est légèrement orangé.
Déjà, c'est un Mâcon, c'est l'entrée de gamme de chez Valette, hein, donc c'est un Mâcon village de 2015. Qui reste 2 ans pour lui, pour le coup, en cave. La particularité de Valette, c'est qu'il refuse absolument d'avoir l'appellation en biodynamie, parce que lui, justement, dit que c'est à ceux qui mettent les intrants de mettre intrants et pas en biodynamie. Donc, il est complètement dans la démarche dont on avait déjà parlé au départ.
Un militant.
Voilà, un militant. Et puis, militant aussi sur les appellations et ses AOC, puisque ces vins sont régulièrement retoqués dans la validation pour telle ou telle appellation. Il y a notamment un vin qui s'appelle « Et pourtant », qui n'a pas été validé, je crois, en virée classée. Et pourtant, c'est un très, très, très grand vin. Mais encore une fois, qui ne sont pas du tout dans les canons définis par les modèles de l'AOC. Donc, il y a une vraie volonté, en tout cas, de sa part, de faire des vins qui lui ressemblent, mais en tout cas, qui sont effectivement rock'n'roll, plutôt sur le fermentaire, plutôt sur, encore une fois, une évolution du chardonnay que j'avais jamais rencontré au préalable. Et du coup, sur un chardonnay, effectivement,
un peu oxydatif.
Un peu légèrement oxydatif. Même s'il n'y a pas de voile, hein, je pense qu'ils ouillent, donc ils remplissent la barrique à chaque fois. Il y a du houillage, hein, ce n'est pas du vin de voile comme le vin du Jura. Mais voilà, c'est une expression en tout cas innovante et nouvelle du chardonnay.
Voilà, un chardonnay atypique.
Oui, très atypique. C'est vrai qu'on sent beaucoup les notes fermentaires sur l'attaque. Une pointe d'oxydation en fin de bouche, sans non plus être sur de la noisette. Ça change vraiment de ce qu'on a l'habitude de goûter en Bourgogne.
Est-ce qu'on est là face à un vin qui mérite de manger quelque chose avec Moi, c'est pas tellement un vin que j'aurais envie de servir à l'apéro, pour le coup.
On est plus
en rafraîchissement.
Sur un vin d'accord. Alors, je pense que tous les poissons sont les bienvenus.
Ouais.
Le fromage.
Là-dessus. Et puis, on pourrait, à mon avis, aussi, il y a un côté légèrement épice, hein, épice douce, donc qui appelle aussi, je pense, une cuisine un petit peu asiatique, un petit peu expicée, voire une cuisine indienne. Donc oui, c'est beaucoup plus un vin de gastronomie, je pense, qu'un vin d'apéro.
Alors, tu le disais sur la maison Valette, mais quand on est allé à leur stand au vin de mes amis, moi, ça a été aussi une découverte. En fait, toutes les cuvées sont dans cette idée-là d'une fermentation longue. C'est vraiment un parti pris, une sorte de signature de la maison qui est relativement unique parce qu'ils sont seuls à le faire.
Alors, la première
ils le font sur toutes les cuvées.
La première signature, c'est d'être déjà en biodynamie. C'est la première chose, de travailler aussi l'ensemble des parcelles de manière indépendante, autonome, principalement à cheval, donc encore une fois d'être en proximité de la vigne. Et il y a effectivement ce parti pris de travailler beaucoup sur le vieillissement du Chardonnay, parce qu'on va en gros sur la base 2 ans pour le Mâcon à 72 mois pour le Clos de Monsieur Nolly.
Bio, biodynamie, c'est pas des pratiques les plus répandues sur le territoire de la Bourgogne.
Non.
On peut dire ça.
On peut dire ça.
Avec Bourgogne Mythique, va aussi des méthodes plutôt traditionnelles, pas tant de ces partis pris.
Il y a beaucoup de grandes maisons qui ont leurs propres vignes, qui achètent aussi les raisins et qui font du négoce. Et il faut savoir que sur ces grandes maisons, on est plutôt sur une optique de volume pour pouvoir répondre à la demande. Et c'est vrai qu'on est un peu moins sur une optique d'offre de qualité. De toute façon, le problème, comme beaucoup disent, c'est que dès qu'il y a écrit Bourgogne sur l'étiquette, ça se vend tout seul. Donc voilà.
Oui, c'est ça, c'est que la rente bourguignonne n'a pas forcément obligé les producteurs à aller dans ces directions-là. Après, ça coûte de l'argent, c'est aussi un investissement, mais il n'y a pas de nécessité en fait d'aller là-dessus, alors que pas mal de... Et puis les jeunes vignerons ont du mal à s'installer en Bourgogne, c'est-à-dire que comme ça coûte vachement cher, ce qui est intéressant en Loire et en Jura, c'est qu'on a beaucoup de jeunes qui s'installent et qui arrivent avec des idées nouvelles, qui n'ont pas été formatés, alors que... On connaît dans ce qui nous lie, hein. Donc on connaît les problématiques de succession parce que ça coûte vraiment très très cher. Entre 1 million l'hectare en Bourgogne et puis 15 000 euros en Loire, on a un vrai ratio de 1 à 100, allez, à 75 sur l'achat. Donc il est plus difficile d'introduire la nouveauté et des jeunes qui viennent bousculer les codes, en tout cas sur le cœur de la Bourgogne. Encore une fois, on y arrive par la périphérie, du côté de Mâcon, Pouilly, etc., Chablis parfois.
Il faut savoir que c'est une région compliquée aussi à cause des aléas climatiques qui ont lieu régulièrement. Là, on en reparlera, mais ils ont eu 3 mauvaises années de suite. Donc, c'est vrai que ça ne donne pas très envie de se lancer sur des pratiques un peu plus biodynamiques nature, parce qu'ils se disent déjà qu'en conventionnel, on a du mal à produire. Donc, si en plus, on passe en biodynamique ou en nature, en biologique, et qu'on réduit encore notre quantité de production, ce sera plus viable, ce sera plus faisable, ce sera plus viable.
On retrouve cette logique en Champagne également, où c'est compliqué d'être bio, c'est encore plus difficile et c'est plus facile, il faut être honnête et le reconnaître, quand on est dans le Languedoc, en Corse, où il y a une pluviométrie qui permet d'éviter les problèmes quand les années sont difficiles. On va quand même noter que le, entre guillemets, le plus grand domaine, le plus connu, prestigieux, la Romanée Conti, est passé en bio.
Oui.
Il y a quelques années. Donc, le fer de lance un peu de la Bourgogne en termes de prestige à l'international montre l'exemple en passant en bio, comme certaines maisons de Champagne qui ont fait cette mue et qui décident de montrer la voie.
Oui, et puis encore une fois, la Bourgogne n'a pas nécessité, quand elle l'est, de dire ça, comme la Loubise-le-Roi, c'est pareil. Hein. Elle est complètement biodynamie, elle a des préparats pour ses plantes, elle fait des tisanes pour ses plantes, etc. Donc, la Loubise-le-Roi, c'est domaine de Roi et puis domaine d'Auvenay, qui sont les vins les plus chers du monde, hein, concrètement, avec la Romanée Conti. Puisque, voilà. Chaque bouteille à moins de 2000 euros, c'est compliqué.
Quand ils travaillent en agriculture biologique, ils n'en parlent pas. Ils n'ont pas besoin de...
Ils ne réclament pas forcément, ils veulent pas forcément avoir le label bio.
Non.
C'est aussi une façon de se préserver, de se dire, ben, s'il y a une année où je suis obligé de traiter, je vais traiter.
Non, c'est même pas ça, c'est que de toute façon, les vins se vendent, donc qu'il y ait écrit label biologique sur la bouteille ou pas, donc ça se vendra, donc pour pourquoi chercher à l'avoir, quoi.
Après, Valette, lui, il a pas voulu le label bio volontairement parce qu'il a pas voulu payer pour travailler, je dirais, normalement le vivant. Hein. C'est sa revendication.
Ce qui est un argument qu'on entend dans d'autres Exactement. Régions. Hein. Pourquoi c'est celui qui fait propre qui devrait payer et pas, et pas l'autre. Après, ce vin étonnant, ce blanc, ce chardonnay du domaine Valette, rappelle-nous la cuvée, Patrice.
C'est l'entrée de gamme de chez Valette, donc c'est un Mâcon Village 2015.
Mâcon Village 2015, qui est une bouteille qu'on trouve
à différents endroits à Paris, mais là je l'ai trouvée chez Saint-Gavis, qui s'appelle La Photo Vin, qui est pas très loin de la rue de Rennes.
Bah, saluons-le.
Saluons-le. Oui, il a une très belle, pas un gros volume, mais une centaine de références très pointues, plutôt en biodynamie. Avec des belles choses.
Ok, et c'est une bouteille qu'on trouve aux alentours de quel prix?
Alors,
en Bourgogne, je pense que c'est important qu'on précise les prix.
Oui, parce là, elle est à 23 €. Donc voilà. D'accord. Elle oscille entre 20 et 23 € globalement.
On est encore dans des sommes qui sont relativement raisonnables, si on peut dire. On a un deuxième vin rock'n'roll d'un personnage un petit peu qui a été médiatisé. Alors, ça ne va pas être le sujet principal aujourd'hui, mais c'est quelqu'un qui fait de la bio et de la biodynamie également en Bourgogne et qui a été médiatisé il y a quelques années, en 2013, parce que voilà, il s'est opposé au traitement de ses vignes. Il a été mis comme ça sur le devant de la scène parce qu'il a tenu bon, c'est allé jusqu'au procès. Enfin voilà, il a été un peu l'étendard d'une forme de rébellion en Bourgogne contre des traitements imposés par arrêtés préfectoraux qui étaient jugés un peu inutiles par certains. On ne va pas forcément revenir sur cette affaire-là. On en a parlé lorsqu'on a parlé de cinéma parce qu'il y avait ce film Insecticide Mon Amour, un documentaire assez excellent qu'on peut recommander, qui parlait de cette affaire. Voilà. Le vigneron, il s'appelle Emmanuel Giboulot. Et aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à ses vins. Et le premier vin qu'on a, le vin qu'on déguste aujourd'hui, c'est un...
Donc on va goûter son Saint-Romain sur la cuvée en chevreau, le dernier millésime qui vient de sortir, le 2017. Et comme c'est bien détaillé sur l'étiquette, on est sur un vin en agriculture biologique.
Saint-Romain, c'est une appellation qui est également très connue pour ses blancs. Là, on est sur un rouge.
Là, on va goûter un rouge.
Voilà. Donc, les blancs, on aura l'occasion de goûter des blancs un peu de ce type-là, dans les notes un peu beurrées, noisettes, différents du Valette qu'on vient de boire.
Pour avoir goûté ces côtes de nuit chez Giboulot, on n'est pas trop justement sur ce côté un peu crémeux, un peu beurré.
Okay.
C'est plutôt travailler sur la fraîcheur en général, sur la finesse, un côté très soyeux avec vraiment... plus le croquant du fruit, la fraîcheur.
Là, on est sur donc la version rouge du Saint-Romain, puisque c'est une appellation qui prend les deux couleurs. Donc un pinot noir, parce que quand on dit rouge en Bourgogne, on dit pinot noir.
Pinot noir, voilà. Ou alors,
pour l'essentiel.
Beaucoup
pour l'essentiel.
Plus bas et on se
Il y a des exceptions
gamay.
À ça
quelques assemblages sur ce qu'on appelait avant Passe-tout-Grain.
Le fameux Bourgogne-Passe-tout-Grain.
Qu'on appelle aujourd'hui Coteau-Bourguignon, qui est un vrai renouveau pour l'appellation. Qui leur permet de
parce que un peu non. Il y a un caviste qui m'avait expliqué ça, parce que Passe-tout-Grain, on jugeait que c'était peut-être pas assez prestigieux, c'était un peu enimé de tout, et c'était vraiment le sens de cette appellation, c'est-à-dire la seule appellation de Bourgogne dans laquelle on pouvait mettre du pinot noir et du gamay. Et voilà, mais Passe-tout-Grain a fait long feu, Passe-tout-Grain, et donc maintenant, Coteau-Bourguignon.
Coteau-Bourguignon, oui.
Moi, j'aimais mieux Passe-tout-Grain. Non ?
C'est ton côté saucisson, ça, non ?
Ouais, non, je trouvais ça plutôt joli. C'était quand même des jolis vins. Bon, voilà. Et en blanc, on peut le dire, il y a énormément de chardonnay et un petit peu de bourgogne aligotée.
Oui, avec un vrai renouveau sur l'aligotée, avec des gens qui travaillent ça très, très bien. Je pense à De Vilaine, par exemple.
Oui, sur le Bouzeron.
Sur le Bouzeron.
Mais bon, on a eu la chance avec Romain de boire un aligoté de chez Coche du Riz aussi il y a quelques semaines, en 2008. C'était génial. Et il y a aussi, je pense, mais là, effectivement, ça devient vite cher, mais moi, j'ai pu en choper un aussi du domaine Leroy, donc la Lobise Leroy en aligoté. Et donc, il y a les aligoteurs, en fait, qui sont 40 vignerons, qui ont lancé en 2018, là, qui ont relancé un premier salon, on va dire un premier événement autour de l'aligoté. Et malgré tout, c'est quand même 10% de l'encépagement en Bourgogne, l'aligoté, donc c'est pas c'est pas rien.
On y reviendra sur les ligotés. C'est pas le vin qui est au programme du jour, mais il y aura forcément des petites choses à aller chercher du côté de ces blancs un peu moins connus, mais que, comme vous dites, certains vignerons voilà, s'évertuent à leur redonner leur lettre de noblesse. Donc, ce Pinot Noir, ce Saint-Romain d'Emmanuel Giboulot, que pouvons-nous en dire ? D'abord, Saint-Romain, c'est, à part que c'est très joli, comme nom.
Bah, c'est très joli, bien sûr. Non, c'est pas forcément une appellation des plus réputées, des plus connues. Ce qui est, j'ai trouvé agréable sur ce vin, c'était son équilibre, parce qu'on avait de la matière, mais on avait beaucoup de finesse. Un vin délicat avec de jolis arômes. Ça fait fruité, il y a une petite touche vanillée, mais ça fait très délicat et c'est très souple, c'est très délicat, ça a une belle longueur en bouche, c'est très agréable.
Bah, on est donc Saint-Romain, on est en Côte de Beaune et ce qui est marrant, c'est qu'on est quand même sur on est très clair là, hein. on est vraiment sur une expression assez claire, donc je dirais plutôt entre guillemets. Sudiste par rapport aux côtes de nuit, hein, le pinot est quand même assez clair, mais quand même, il s'assombrit plus on est côte de nuit, malgré tout, son nom porte bien son nom.
Vaune,
etc., il est plus sombre. Là, on est très clair, on est presque sur
un
rubis rosé translucide.
C'est une grenadine un peu chargée, quoi.
Exactement.
C'est...
En couleur.
Et puis, quand vous l'avez en bouche, vous avez ces notes épicées très marquées.
Ouais, mais je trouve au nez aussi.
Au nez, oui, je retrouvais la vanille assez présente.
Mais on a le côté épices vanillées, croquants.
Et après, on retrouve d'autres épices, mais c'est des épices douces. Des choses
et le nez, je trouve ça... le pinot noir, le nez, mais c'est du parfum, quoi. C'est frais, c'est léger, c'est fruité, c'est épicé, c'est vanillé. C'est juste, le nez est absolument génial. Hein.
Et à l'attaque, vous avez ce croquant, ce peps de fruits, et direct soutenu par les épices qui reviennent derrière, avec vraiment... C'est bien équilibré. On a vraiment l'impression d'une partition de musique qui se joue, que toutes les notes viennent les unes après les autres dans un ordre bien défini, comme si c'était écrit d'avance et que voilà, ça joue sa petite musique parfaitement. Tout se déroule parfaitement bien.
Une belle composition de musique classique, hein, c'est ce qu'on disait.
C'est vraiment ce terme est un peu galvaudé, mais c'est vraiment très élégant. C'est d'une finesse et d'une légèreté. Il y a cette couleur très... qui n'insiste pas, quoi, qui est juste suggéré. On est dans c'est transparent, c'est limpide et en même temps c'est vraiment super. Même enfin, pour avoir bu quand même pas mal de pinot noir, celui-là il est particulièrement évanescent, très dans la légèreté, dans la finesse. On peut dire un mot de ce pinot noir, parce que les deux cépages en Bourgogne, donc le chardonnay pour le blanc, le pinot noir pour le rouge. Le chardonnay pour le blanc, je pense que ça doit être un des cépages les plus plantés dans le monde. Dans le blanc, on fait du chardonnay un petit peu partout. Et puis d'ailleurs, dans beaucoup d'endroits dans le monde, on va dire « je voudrais un chardonnay ». Le pinot noir, c'est moins planté, mais on en trouve un peu partout aussi.
C'est difficile à conduire. Il aime quand même une certaine fraîcheur. Il aime des sols un peu argileux, un peu pauvres. Donc c'est pas un cépage qui est très productif. C'est un cépage qui est assez sensible aux maladies. Donc c'est pas le cépage sur lequel on va parler des vins du Nouveau Monde, sur lequel le Nouveau Monde s'est penché.
C'est un peu l'opposé du Cabernet Sauvignon.
C'est l'opposé total du Cabernet Sauvignon, on va le dire comme ça. Mais oui, effectivement, c'est vrai que dans le Nouveau Monde, ils avaient des températures assez importantes, ils avaient des sols assez riches. Et donc le pinot noir sur un sol riche avec beaucoup de chaleur, il devient lourd, il devient pâteux. C'est un vin avec un gros grain, c'est pas fin, c'est pas soyeux, c'est pas équilibré, c'est court en bouche, c'est pas intéressant. C'est un cépage qui demande une maturation assez longue. C'est un cépage qui est sensible parce qu'on a des débourrements assez tardifs, donc c'est très fragile, c'est très sensible.
C'est quoi les débourrements ?
C'est le moment où vous allez avoir les
floraisons, en fait, dans les premiers.
Oui, puis on...
C'est quand il commence à être fragile au gel, en fait.
Voilà. C'est quand vous avez le... Quand la sève remonte...
La remontée de sève.
Vous commencez à avoir le début des... le début des bourgeons.
Et du coup, ouais, il s'exprime... donc, c'est pas un cépage... fort en variétal, comme on dit, qui s'impose quel que soit le terroir. Il fait parler le terroir beaucoup plus que l'inverse, contrairement au Cabernet Sauvignon qui est très variétal, c'est-à-dire le cépage s'exprime et s'impose un peu. C'est pour ça qu'il est plus facile de faire du Cabernet Sauvignon partout. Par contre,
du Cabernet Sauvignon.
Cabernet, ouais, exactement. Cabernet Sauvignon.
C'est mignon.
Cabernet Sauvignon, pardon. Et c'est pour ça qu'il faut le faire sur le 45e parallèle. C'est pour ça qu'il faut le faire en milieu tempéré et ça s'exprime bien sur des à mi-pente. Et sur du calcaire, donc c'est le cas de la Bourgogne.
Pinot noir, cépage bourguignon.
Tout à fait.
En tout cas, on atteste qu'il était là depuis. Il est là depuis toujours.
C'est il pas était là le avant Grenache. Les moines. Hein. Ouais.
Il était cultivé par les Gaulois déjà.
Avant même l'arrivée des Romains,
oui.
Exactement.
Qui pourtant nous ont apporté la vigne, enfin plus ou moins le vin, une certaine culture du vin.
Exactement. Il était endémique et millénaire.
Ce vin d'Emmanuel Giboulot, voilà, c'est juste une petite merveille. Avec quoi vous voudriez l'accorder ?
Là, ça demande un plat un petit peu cuisiné, une viande avec laquelle on aurait fait une sauce, un plat un peu fin, un peu délicat.
Ça répond plus, je pense, à du veau qu'à du bœuf, par exemple. Enfin, plutôt ouais, quand même, si c'est une viande rouge, plutôt quelque chose, enfin, entre guillemets, rouge.
On n'est pas dans le côté viandard.
Non, on n'est pas. Non, faut qu'il y ait un peu de, à mon avis, de finesse en face.
Un peu de champignons ou...
Pas forcément.
Non, pas forcément. C'est plus la côte de Nuit qui appelle que la côte de Beaune en général sur le Pinot. Donc le Nord, un peu plus. L'expression un peu plus noire du Pinot Noir, on va dire ça comme ça, un peu plus cuir, un peu plus fourrure. On est vraiment sur l'expression hyper, hyper fruitée, mais effectivement assez épicée finalement. Plus, fruits épices, quoi. Donc voilà, des choses où il y aurait des fruits aussi, des fruits rouges, peut-être une sauce fruits rouges, etc.
Ouais, par exemple, là on a un petit plat sympa, là, un dos de sanglier.
Parle-nous de la carte de la truffière.
De Colonnata, avec une petite sauce miroir de vin rouge. Voilà, ce serait pas mal.
Du sanglier.
Oui, parce que...
Viande assez forte, quand même.
Bah oui, mais finalement, là, le dos de sanglier est très fondant et très tendre. Et on n'est pas sur un goût trop gibier. Mmh. Les épices du lard Colonnata et puis la sauce miroir vin rouge. Avec ça, c'est très sympa.
Est-ce que... Ce vin-là, qu'on boit relativement jeune, parce qu'il est de 2017, il mériterait, il gagnerait à vieillir. Qu'est-ce qui se passe avec le Pinot ? On sait que le Gamay, quand il vieillit, il pinote. Mais que fait le Pinot quand il vieillit ? Qu'est-ce que ça nous apporte ?
Alors, celui-là en particulier, je pense qu'il... je ne sais pas s'il faudra dépasser 10 ans. Je ne pense pas, parce qu'on
serait bien encore avec 3 ou 5 ans de vieillissement. Mais après, au-delà de 5 ans, à mon avis, on va perdre une partie de ces arômes fruités. Et ce serait dommage, parce que c'est cette fraîcheur et ce fruité qui fait que le vin est bien équilibré. Si on perd une touche de fruité, ce sera dommage. Ça risque d'être déséquilibré l'ensemble.
Mais un pinot peut vieillir très très bien. Moi aussi, un de mes très très grands souvenirs de dégustation, c'était un Vaune Romanée de 1959, quand même,
il y a
50 ans. Alors, toutes les années en neuf sont assez exceptionnelles en Bourgogne. Hein. Donc, 59 est connu en tout cas pour être une année exceptionnelle.
On croise les doigts pour 2019.
Donc, on était sur une belle année. On était probablement sur une lune qui n'avait pas connu la chimie, parce que la chimie est arrivée sur la deuxième moitié des années 50 en France, donc après impact, pas impact, mais c'était un truc juste incroyable. Le vent était à l'épaule, donc il avait perdu. On était sur une maison de Rouen, donc qui n'est pas non plus une super grande maison, c'était juste un Vaune Romanée village, et c'était juste incroyable. Le nez était incroyable, le vent était tiré sur le pot pourri, la vieille rose, etc., les vieilles framboises. Donc le vin avait 50 ans, c'était une Vaune Romanée village.
Et il avait encore du tonus, il n'était pas mort du tout.
Il était différent, quoi. Il avait super bien vieilli, mais simplement parce qu'il était beau jeune.
J'ai eu l'occasion sur Chantal Lescure d'aller au domaine et de goûter justement des vieux millésimes. Et c'est vrai que Chantal Lescure, il y a toujours cette note un petit peu de pivoine, ce côté très floral, très présent. Et ça a évolué sur un côté un petit peu plus, comme tu dis, pot-pourri. Et il y avait une note un petit peu plus cuir, un petit peu plus animal, mais toujours avec de la fraîcheur, de la délicatesse, du soyeux. Je pense qu'un grand Bourgogne, c'est un Bourgogne qui est tout en finesse, jamais en lourdeur. Un peu à l'opposition de ces grands Bordeaux qui vont être souvent dans la puissance. La Bourgogne, c'est plus dans la dentelle.
Alors, quand on parle de la puissance des Bordeaux, justement, souvent on dit « Ah, il est puissant, mais c'est parce qu'il faut le faire attendre. » Et que c'est cette puissance qui va lui donner la longueur, qui va tenir 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça va se transformer en finesse. C'est pas tout à fait la même grille de lecture sur le Bourgogne. Un Bourgogne jeune, il doit déjà être.
Non, en tout cas, si on parle du Pinot, c'est sûr qu'il a pas du tout la même ossature tannique qu'un Bordeaux. Donc il va quand même évoluer sur plutôt des. Un Bordeaux va plutôt être, je pense, sur des notes tertiaires type tabac, sous-bois, etc. Donc des notes tertiaires un petit peu quand même fortes, musquées, on va dire ça comme ça, si c'est la bonne expression. Alors qu'effectivement, un Bourgogne, un Pinot va évoluer sur des pots pourris, vieille pivoine, vieille rose, des notes un petit peu effectivement kirschées. Donc plutôt dans l'élégance, plutôt le floral. Mais encore une fois, moi j'adore mes préférés, c'est plutôt les Von Romanet parce que j'adore le côté évolution fourrure de grands, un petit peu animal, un peu cuiré, justement, qui donne cette structure que naturellement le Pinot n'a pas. Donc on retrouve souvent dans les côtes de nuit, quoi. Donc dans les Vaunes, Romanée Conti, c'est là, dans les Bonnemare, dans les crues Moret-Saint-Denis.
Mais c'est vrai que la différence entre la Bourgogne et le Bordelais, même s'il y a un virage qui a été effectué à Bordeaux où on travaille des vins un peu plus faciles et accessibles dans leur prime jeunesse, il est moins rare d'avoir des vins accessibles jeunes en Bourgogne des vins accessibles jeunes à Bordeaux. Je pense que c'est aussi ça qui a fait un peu la réputation de la région, c'est qu'on peut goûter les vins qui ont 3, 5 ou 10 ans et déjà avoir un plaisir très important sur les vins, alors qu'il est de bon ton de garder son Bordeaux 10, 15 ou 20 ans. On te dit qu'il n'est pas prêt à boire parce que tu comprends, il faut attendre 10, 15 ou 20 ans, alors que sur les Bourgognes, il y a plus de finesse. Et du coup, ça donne des vins un peu plus souples, un peu plus prêts à boire, même si c'est toujours très joli lorsque ça vieillit, c'est très intéressant.
Est-ce que tu sais s'il vinifie en grappe entière ou s'il est grappe ?
Non, de mémoire, il est grappe.
D'accord, ok. Parce qu'il y a un petit côté, effectivement, acidité, verdeur, mais qui doit être plutôt...
Ouais, il y a l'effet millésime. Hein. 2017, c'est pas une très grande année.
Alors, non, mais côté verdeur que j'ai mis, une petite fraîcheur verte.
C'est un point que vous vouliez évoquer également, les épisodes climatiques. Là, la Bourgogne vient d'enchaîner trois saisons.
Trois mauvaises années.
Très compliquées.
Très mauvaises années avec des rendements très faibles. Donc très compliquées, oui.
Et comme Patrice l'a dit, les années en neuf sont exceptionnelles. Donc 2019,
peut-être. Ah ben 2019, peut-être. On espère. Hein. Non, mais 2018, déjà, c'était pas mal. Il y a une amélioration. C'est pas, il paraît que ce sera pas forcément une année extraordinaire, mais bon voilà, il y avait du raisin.
Parce que ça permet de satisfaire un petit peu la demande aussi.
Oui, parce que là on a quand même été sur une période où il y avait presque pas de raisin du tout pour personne.
Comment ils font alors ? Du coup,
même si 2018 il y a eu un épisode de gel assez compliqué, mais il y a eu quelques orages de grêle aussi un petit peu compliqués, mais ça va, il y a quand même eu du raisin.
On va continuer notre exploration de la Bourgogne. Voilà un épisode dans lequel on a goûté un vin de la maison Valette, un vin d'Emmanuel Giboulot en Saint-Romain, un blanc, un rouge, deux curiosités, enfin deux vins qu'on vous invite à découvrir, qui se trouvent facilement. Le Giboulot, ça c'est toi qui nous l'a rapporté.
Le Giboulot, c'est un vin qu'on vient de rentrer à la cave. Et
On
peut trouver à l'ABC du vin. Et à prix caviste, bon, il vient de rentrer, hein, donc je n'ai pas encore fait les prix, mais on va être aux alentours de 40 euros.
Ah oui, on est quand même déjà plus élevé.
Ouais, c'est quand même cher.
C'est ça la Bourgogne aussi. Hein.
C'est ça la Bourgogne. J'aurais dû vous rapporter peut-être aussi les vignerons de Buxy, CAFCOP.
Il y a des CAFCOP en Bourgogne.
Il y a des CAFCOP en Bourgogne et les vignerons de Buxy qui font des choses très très bien. Et là, les vignerons de Buxy, bon, on a fait un peu prix d'appel, mais on arrive à trouver un Bourgogne à 10 euros. Prix caviste. Mais ce qui est un peu compliqué, c'est que quand vous avez un client qui arrive à la boutique et qui vous fait voilà, je voudrais un Bourgogne.
Un grand Bourgogne,
d'accord,
évidemment.
D'accord, un grand Bourgogne. Quel budget, quel prix? Je ne sais pas, dans les 15, 20, 25 euros. Et ben, pour moi, c'est très difficile parce que je suis obligée de leur dire. C'est 10 euros ou alors on repasse direct à 40-50 euros. C'est très très compliqué d'avoir hein, ce qu'on appelle le milieu de gamme, qu'on a sans trop de problèmes dans la plupart des régions et qu'on a énormément de mal à avoir en Bourgogne. En Bourgogne, soit vous avez le prix d'appel aux alentours de 10 euros, CAFCOP, on fait des choses pas mal, sympas, intéressantes, soit directement c'est le vin de vigneron et tout de suite on n'est pas à moins de 40 euros.
Oui, alors il y a... C'est assez difficile. Moi, je suis assez fan d'une appellation qui est peut-être pas très connue, qui s'appelle Moret-Saint-Denis, où on trouve encore des choses à 25-30 euros. Alors, tu me diras, c'est le haut du milieu de gamme.
Ouais, c'est compliqué. Hein.
Oui, non, c'est pas facile. Et puis, les quantités sont pas simples. Mais Moret-Saint-Denis, c'est gavé de grands crus. Hein. Claude Lambray, Claude Tard, Bonnemare, etc. sont au Moret-Saint-Denis, le village de Moret-Saint-Denis, donc qui est entre Chambolle et Vendromanais. Et il y a encore quelques, comme l'appellation n'est pas hyper connue, il y a encore quelques belles affaires à faire en Moret-Saint-Denis village. Et on est, je pense, sur une super expression de côte de nuit et qui soit encore en moins de 30 euros pour certains. Il n'y en a pas beaucoup, mais pour certains. En tout cas, si ce n'est pas des premiers crus.
Il faut trouver.
Il faut trouver. On va continuer. La Bourgogne, c'est la première fois qu'on n'est pas capable de dire on va explorer la région en X épisodes. Là, on va en faire deux et on sait d'avance que ça suffira pas. Donc, on en fera d'autres. On va continuer à explorer puis chaque fois à découvrir de vins et puis voilà, donner un petit peu toutes les facettes de cette Bourgogne extraordinaire, qui nous émeut, qui nous agace aussi parfois parce que les meilleures choses sont inaccessibles. Elles sont plus bues au Japon. En Chine, qu'ici, mais bon, ça fait partie du jeu, c'est l'offre et la demande, et c'est aussi le prestige. Et puis la Bourgogne a inspiré tellement de vignerons qui s'expriment aussi dans d'autres régions qu'on a eu l'occasion de goûter. Donc voilà, la belle Bourgogne, on va en faire non pas le tour, mais plein de petits tours. Et ben voilà, on se donne rendez-vous pour la prochaine émission pour découvrir deux nouveaux vins qui seront à nouveau un blanc, un rouge. Et à nouveau de belles émotions avec des vignerons qui sont des auteurs, on peut dire ça?
Tout à fait.
Allez, on se dit à la prochaine. À bientôt.
À bientôt.
Bye bye, bonsoir.
Salut, ciao.